Ben, en fait, en théorie, les délais pour rendre le jugement à la Cour d'appel ont toujours été fixés à 6 mois.
Ouais, c'est ça. Ça nous
Donc,
mène à fin mars, début avril. Là, on est.
exactement. Exactement. Ça nous amenait au 1er avril. Donc, certainement, la situation aurait été beaucoup plus facile à gérer si le jugement avait été déposé, pour le 1er avril. Donc, moi, je comprends absolument, M. Garreau, de devoir prendre la décision hâtive. Parce
Oui.
que toute la planification que ça demande en termes d'ouverture de saison, il ne peut pas risquer de commencer à planifier pour que finalement le dossier ou le jugement soit déposé d'ici 2 ou 3 semaines, puis que tout ce qui est prévu ben, tombe à l'eau. C'est une décision d'affaires totalement compréhensible.
C'est vraiment sur le fond, hein, pas seulement sur le montant du dédommagement, finalement, là.
Oui, c'est sur le fond, en fait, c'est sur la validité des démarches qui avaient été faites par la Ville en 2013. Donc, parce que le jugement de la Cour supérieure sous-entend qu'il y aurait eu mauvaise foi, puis des gestes posés, les gestes qui avaient été posés par l'administration dans la procédure pour arriver à un changement de zonage auraient été questionnables. Bien sûr, la théorie de la Ville, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait au-delà des normes et des règlements. Puis si je pense que ça a été bien confirmé en cour d'appel, parce que les juges de la cour d'appel ont posé justement des questions à l'avocat M. Garreau en disant est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites en dehors finalement du processus légal. Puis il n'y a pas le choix d'avouer que tout ce qui a été fait a respecté finalement les normes législatives qui sont imposées quand on fait des changements de zonage. C'est-à-dire un avis public, un avis de motion, un premier règlement, puis une première adoption, pardon, puis une deuxième adoption. Donc quand on dit que la Ville a agi de manière précipitée puis de manière hâtive, mais pas plus que ce que le règlement dit et que la loi surtout le dit.
OK.
Donc, c'est difficile de démontrer qu'il y a eu une certaine hâte à faire les choses quand on a respecté tous les délais. Comprenez?
Oui.
Toutes les exigences de la réglementation. C'est ça qui a été plaidé à cour d'appel. Puis la décision que nous, on avait à prendre, mais c'est une gestion de risque, hein. Si on fait face à un jugement qui nous amène à peu près à 5,6 millions avec les intérêts, est-ce qu'on est prêt à mettre 60, 70 000 $ de plus en frais juridiques pour essayer de plaider que tout ce qui a été fait était légal? C'est ça la décision qu'on a prise au niveau de la cour d'appel. Puis on s'est fait convaincre par notre procureur parce qu'on était une nouvelle administration, hein. On voulait prendre une décision rapide. Je pense que l'audience a eu lieu. On a eu à prendre des décisions à quelques mois après notre arrivée en poste. C'est qu'on a fait des rencontres avec le procureur. Puis le procureur, avec ses arguments, a convaincu le conseil municipal que le risque en valait la chandelle.
OK.
En valait le coup plutôt.
Donc c'est toute cette notion-là du premier jugement d'expropriation déguisée là, que vous voulez faire tomber en cour d'appel.
Exact, exact. Il y a cette possibilité-là que le jugement vienne. Le jugement peut confirmer cette possibilité-là. Puis il y a d'autres choses aussi.
OK.
On peut pas présumer du scénario qui va être mis en forme par le jugement de la Cour d'appel.
À votre avis.
La Cour d'appel pourrait confirmer le jugement de la première instance, la
Oui.
Cour supérieure.
Oui.
Il pourrait aussi invalider le règlement. Donc, si jamais la Cour d'appel venait à invalider le règlement, M. Garreau probablement se retrouverait avec un zonage résidentiel comme avant finalement le changement de zonage en 2013.
OK.
Ça peut être un scénario aussi. Puis ils peuvent aussi confirmer que la Ville a fait des démarches légales, puis que le changement de zonage pouvait être fait sans imposer de conséquences. Parce que nous, on a plaidé aussi que quand M. Garreau dit que dans son entrevue, qu'il est condamné à opérer un golf jusqu'à la fin de ses jours, il y a quand même entre 35 et 40 usages là, qui peuvent être permis au-delà du golf.
OK.
Puis ça avait été mentionné, nous, quand on avait fait une séance d'information avec la population, on avait fait une certaine liste des types d'usages. Certainement, c'est pas la même situation. Parce que la valeur du terrain peut être estimée en fonction des usages permis. Donc, c'est pas vrai que le terrain, du jour au lendemain, il vaut rien.
OK. Parmi les utilisations, outre le golf, quelles pourraient être certaines de ces
Ah,
utilisations?
je l'ai pas par cœur, mais c'est un espace vert et récréotouristique.
OK.
Donc c'est tout ce qui amène finalement du récréotourisme ou d'un usage récréatif.
OK. OK,
Fait qu'il y en avait 35 comme ça.
Y a-t-il autre chose que la ville de Saint-Colomban désire rectifier comme affirmation?
En fait, quand M. Garreau estime les frais juridiques de la ville, ça, il n'y a absolument aucune information qu'il peut prétendre quand il dit que lui a dépensé 400 000 $ nous, c'est vraiment pas les estimés des frais juridiques qu'on a dans nos dossiers. On est bien en deçà de ça.
Parfait.
Quasiment la moitié moins de frais juridiques.
L'avis du contentieux vous permet d'espérer que la ville pourrait tirer un certain avantage du jugement attendu par la Cour d'appel?
Bien, en fait, sans parler davantage, certainement, la décision de la première instance, là, dans le fond, forçait la ville à prendre possession d'un terrain de près de 770 000 m², si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Donc, oui, c'est cher payé, mais on reste tout de même propriétaire d'un actif. Puis, le travail que l'on a fait, nous, c'est se préparer au pire scénario. Puis, le pire scénario, c'est du jour au lendemain, on se retrouve avec un terrain qu'on a payé basé sur une valeur résidentielle. Donc, nous, c'est sûr, on a établi un scénario pour essayer, sans rentabiliser à court terme le tout, là, c'est d'essayer d'alléger beaucoup le fardeau fiscal de la ville dans le fait d'assumer cette décision-là. Puis ça, on est prêt à y faire face.
Parfait. Donc, vous avez planché sur différentes solutions.
Le scénario du pire.
OK.
Exactement. Le scénario du pire, c'est vraiment que le jugement de la première instance soit confirmé, qu'on se retrouve avec un paiement qui avoisine les 6 millions de dollars avec intérêt, là, si c'est pas plus. Donc, comment on fait pour valoriser cet espace-là, limiter finalement le fait de transférer la facture à la population, tout en se permettant de développer un espace vert ou des activités qui conviendraient à la population.
Parfait.
Donc, pour nous, le volet développement résidentiel à 100% de ce secteur-là, il est totalement exclu. Parce que on a l'avantage, le terrain du golfe Bonnybrook, c'est un magnifique terrain hein, qui est longé par le ruisseau Bonnybrook, puis il est surtout situé au cœur de la ville de Saint-Colomban. C'est un espèce de Central Park là, mm-hmm. qui est super intéressant, puis qui pourrait être, à notre avis, là, valorisé pour le bénéfice de la population.
Vous m'aviez dit, évidemment, que vous avez dans vos cartons là, déjà des scénarios pour le développer. Ouais. Vous m'avez dit pas de résidentiel à 100% ou pourrait-il y avoir une petite portion résidentielle?
Bien, ça, c'est tout est en fonction du calcul, finalement, du fardeau financier qui incombera, qui viendra avec le jugement.
OK.
Nous, on a des scénarios, mais on veut aussi donner l'opportunité aux gens qui sont riverains au golfe de prendre les premières décisions. Ça, c'est important. Donc, si on a à finalement faire une division cadastrale pour soit augmenter la grandeur de certains terrains pour certaines personnes, ça, c'est un scénario qui est aussi envisagé. Donc, il peut avoir une certaine portion qui est dédiée au développement résidentiel, mais les gens qui sont riverains à certaines parties du golfe, nous, on veut leur donner l'opportunité qu'ils puissent agrandir leur terrain, puis que si jamais ils veulent s'organiser entre eux pour préserver l'espace, je dirais la perspective là, visuelle que le golfe permet d'avoir, nous, ça, c'est un scénario qu'on envisage déjà. Ça, nous, ça nous permet finalement de démocratiser à un certain point là, la dépense que viendrait générer le golfe okay. avec les riverains. Ça, c'est un des scénarios. Je pense aussi, M. Claude, c'est important de dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le jugement. J'ai entendu beaucoup de suggestions, que ce soit des gens des riverains, que ce soit des gens de l'extérieur. On ne sent pas la porte non plus. Est-ce que des riverains puissent se rassembler pour faire un achat, par exemple? Que des riverains puissent se rassembler pour, comme j'ai dit, prendre une partie du territoire pour s'assurer qu'il y a une préservation de l'espace. Il y a plein de choses. C'est une fois que la ville, si jamais la ville vient à devenir propriétaire du terrain, ben on va faire un appel à projet. Mm-hmm. S'il y a des projets intéressants qui garantissent le meilleur usage du terrain pour toute la population, c'est sûr qu'on va le considérer. Puis on a aussi la chance que ce golfe-là soit entouré de gens qui sont plus en moyen que de gens qui peuvent habiter ailleurs à Saint-Colomban. Donc, moi, on va faire appel à la créativité des gens. Si jamais il y a des gens qui ont des projets intéressants d'investissement, mais on va le considérer, c'est sûr. Le
Parfait.
but, là, c'est de prendre la meilleure décision tout parce que ça coûte le moins cher possible pour la population. C'est ça notre objectif.